Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Encore deux personnes tuées en une semaine, en un jour plus tôt hier, dans la commune de Karisimbi à Goma. C'était lors d'un braquage des bandits armés. La société civile de Karisimbi tire la sonnette d'alarme et demande l'implication personnelle du gouverneur Peter Chirimwami. La zone de santé de Nzaba Mbujimayi est la première qui enregistre le nombre élevé des malades de tuberculose en RDC. Révélation du chef de division de prise en charge de cette maladie au programme national de lutte contre la tuberculose, docteur Emery Asankia, justifie la résistance de cette maladie par le manque des kits nutritionnels. Et puis, résurgence des violences armées depuis quelques semaines en Ituri avec des attaques ciblant des camps des déplacés. Quelle analyse faire de la dynamique des conflits dans cette province? Pour en parler, nous recevons Thomas Ouguébeiro, directeur général du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement en Ituri. Madame, messieurs, bonjour. Sport tout d'abord. Début ce mardi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans pour la zone UNIFAC, Union de Fédérations de Football d'Afrique Centrale. La RDC joue le match ouverture contre la République du Congo tout à l'heure à 13h au stade Massamba Déba de Brazzaville. Vanessa Nkongolo est sur place. Vanessa, bonjour.
Bonjour Belinda, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Dites-nous, à moins d'une heure du match, quelle est l'ambiance au stade Massamba Déba?
Alors Belinda, il faut dire qu'à une heure de cette rencontre, tout est encore très calme ici au stade Massamba Déba, mais on signale déjà la présence de deux équipes qui doivent jouer les matchs d'ouverture, à savoir l'équipe de moins de 20 ans de la République du Congo, les Diables Rouges, et celle de la RDC. Donc tout à l'heure là, les deux équipes doivent faire leur entrée sur les terrains pour la traditionnelle séance d'échauffement d'avant le match. Les gradins sont vides, il faut le dire, le stade est pratiquement vide. Il n'y a que quelques jeunes qui ont fait les déplacements du stade pour suivre cette rencontre. Mais il faut dire qu'il fait extrêmement chaud ici au stade Massamba Déba où la température est à 30 degrés Celsius.
Dites-nous Vanessa, les Léopards juniors sont-ils prêts pour ce match contre les Diables Rouges juniors?
Justement, Belinda Bosuma, les Léopards sont très prêts pour aller à l'assaut de cette compétition, arriver jusqu'en finale pour arracher une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique de moins de 20 ans qui aura lieu justement dans un pays à déterminer, mais ça sera en 2025. Ils ont terminé la phase de préparation qui a débuté depuis Kinshasa au centre Kurarampova. Ils ont fini ça hier ici au stade Massamba Déba. Hier la nuit, ils ont eu la visite du sélectionneur manager des Léopards A, Sébastien Desabre, qui était justement venu charger le moral de ces joueurs, les motiver à aller jusqu'au bout et surtout arriver en finale pour arracher la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans.
Merci à vous Vanessa Nkongolo. Je rappelle que vous intervenez à partir du stade Massamba Déba de Brazzaville. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions.
Merci Belinda.
Revenons ici au pays, précisément au Nord Kivu. Nous parlions de Goma où encore deux personnes ont été tuées par balle et une autre grièvement blessée par arme blanche en une journée au quartier Virunga dans la commune de Karisimbi. Ces deux personnes ont été tuées lors d'un braquage perpétré par les bandits armés non autrement identifiés dans la soirée d'hier lundi. La société civile noyau de Karisimbi qui tire une sonnette d'alarme face à cette insécurité grandissante dans la commune de Karisimbi demande l'implication personnelle du gouverneur, le général-major Peter Chirimwami, car selon lui, dans ce contexte de l'état de siège, la gestion de la sécurité repose majoritairement sur les militaires et les policiers. Bernardine Diambou revient sur les faits. Voilà, Bernardine n'est pas encore prête. En attendant, sachez que la situation reste volatile et confuse dans la région de Tongo et Bukombo, chefferie de Bwito, mais aussi dans Binza, plus au nord du territoire. Nous sommes toujours au nord Kivu. C'est à la suite des affrontements à répétition entre les Wazalendo et les rebelles du M23. Des sources dans la région de Bambo affirment que les populations continuent à fuir les villages de Marangara et Runzenze pour se réfugier vers d'autres villages, notamment vers Rushege, Rushovu et Oe. À cause des exactions récurrentes et des pillages perpétrés par des hommes armés, la population préfère s'y déplacer pour s'y mettre à l'abri. D'autres sources au sein de la notabilité affirment que les groupes armés locaux Wazalendo font des incursions répétées dans les villages abandonnés par les rebelles lorsque ces derniers se focalisent ailleurs, ce qui accentue l'instabilité dans cette partie du territoire de Rutshuru. On me fait signe que Bernardine Diambou est en ligne. Bernardine nous parle de ces deux personnes qui ont été tuées par balle dans la commune de Karisimbi.
Parmi les deux personnes tuées figure un changeur de monnaie victime d'un braquage au quartier Virunga dans la soirée d'hier lundi vers 18h30 local, mais aussi l'un des braqueurs qui a été commis à la garde d'un officier des FARDC qui habite non loin de la station Kisirani, selon des témoins sur le lieu du drame. D'autres malfrats qui ont opéré sur une moto ont pris fuite avec les effets de la victime. Toujours selon nos sources, un cadre du parti Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Birek et un expert au bureau d'études du gouverneur militaire du Nord Kivu a été également grièvement blessé à la tête par des armes blanches. C'est un groupe de bandits armés qui ont attaqué la victime répondant au nom d'Ivan Semurai, qui a personnellement identifié ces malfrats selon nos sources. Les mêmes sources ajoutent que la victime a été vite acheminée dans une structure de la place pour des soins appropriés. Sa vie serait en danger, affirment nos sources. Cette situation du banditisme urbain inquiète de plus en plus la population de Goma. Face à cette montée de l'insécurité, le président de la société civile de Karisimbi demande l'implication du gouverneur militaire pour voir comment éradiquer l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Goma en général et en particulier dans la commune de Karisimbi. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, la population de Kail au centre s'est réveillée lundi dans une psychose généralisée. C'est à la suite du braquage des bandits armés. Ces malfrats ont visité plusieurs maisons des opérateurs économiques et quelques entités de traitement minier. Plusieurs biens de valeur ont été emportés, dont plus de 80 millions de francs congolais chez les négociants et une autre somme importante dont le montant n'est pas connu dans le comptoir de Congo Jackson. Un agent de cette société a été molesté. Récit des faits avec Florence Kizalunga.
Selon le président paroissial de la commission justice et paix de Kailo qui a vécu la scène, ces malfrats ont tiré plusieurs coups de balles réels sans être inquiétés de 23h à 2h du matin avant d'opérer. Monsieur l'abbé Alphonse Kitoala s'inquiète du fait qu'il n'y ait pas eu intervention des autorités.
Notre inquiétude est que ces malfrats ont opéré, mais il n'y a pas eu l'intervention de la police ni même du conseil de sécurité local. Malgré les alertes, les appels téléphoniques, mais personne n'est venu au secours de la population. Les autorités policières et armées sont complices de ce que nous avons vécu aujourd'hui.
Consternés, les députés provinciaux de Kailo demandent que les responsabilités soient partagées. Kibungi Mutanga Junior.
C'est triste les informations que nous avons reçues. La population a été victime des cambriolages armés. Nous demandons à l'autorité provinciale, son excellence monsieur le gouverneur, de prendre des dispositions pour sécuriser cette population et de dégager les responsabilités. S'il faut sanctionner ce qu'il faut sanctionner, en fait, que cette population soit apaisée.
Sachez que l'agent molesté se trouve présentement à l'hôpital pour des soins appropriés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans la province du Haut-Katanga, les policiers de Lubumbashi, issus des différentes unités, sont appelés à la discipline et au respect de leur serment de ne jamais trahir le pays. Ces notions leur ont été rappelées par le général Jean Bosco Galenga, commissaire général adjoint en charge d'appui et de gestion de la police. C'était au cours de la parade extraordinaire qu'il a présidée au camp est de la commune de Kampemba. Le général de la 22e région militaire, les responsables des services de renseignement et de migration ont aussi assisté à cette parade. Jean Gandou, reportage.
Cette parade était une occasion pour le général de rappeler la mission de la police à toute l'assistance, à savoir la protection de la population et ses biens. Il a insisté sur la discipline qui doit être de stricte application. La police, a-t-il indiqué, est apolitique. En outre, le tribalisme, les tracasseries et autres actes de vol impliquant les policiers doivent être bannis. Le général Jean Bosco Galenga a aussi précisé que l'accoutrement du policier doit également refléter la discipline et une même unité ne doit pas avoir des uniformes de couleurs différentes. Il a invité les policiers à collaborer avec d'autres services, dont l'armée, le service de renseignement et le service de migration pour le bien de la nation. Il a aussi rappelé aux policiers que la population n'est pas leur ennemi. Le général Jean Bosco Galenga a aussi déploré le fait que certains policiers ne s'empêchent pas de mettre sur la place publique les documents officiels de service à travers les réseaux sociaux. Il en est de même des images qui circulent sur les mêmes plateformes et qui ternissent l'image de toute la police. À l'approche de la mise en place de la commission d'avancement en grade, il a tenu à préciser ce que suit.
Les grades ne se vendent pas, les grades ne s'achètent pas, les grades ne se marchandent pas. Les postes ne se vendent pas, les postes ne s'achètent pas, les postes ne se marchandent pas.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Santé. La zone de santé de Nzaba à Mbujimayi est la première qui enregistre le nombre élevé des malades tuberculeux en République démocratique du Congo. C'est le chef de division de prise en charge de la tuberculose au programme national qui l'a fait savoir au vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Kasaï oriental. D'après Dr Emery Asankia, depuis le début de cette année, la zone de santé de Nzaba compte 93 malades qui résistent au traitement sur 22 346 tuberculeux. Le chef de division de prise en charge de la tuberculose justifie cette résistance par le manque de kits nutritionnels, une situation qui expose toute la communauté, a dit Dr Emery Asankia Kilolo au micro d'Esther Ndalafina.
C'est la zone de santé de Nzaba qui bat les records. Aujourd'hui, nous venons de là. La zone de santé est déjà à 93 patients dépistés multirésistants. Donc, nous devons réfléchir ensemble. Si le malade tuberculeux qui prend les médicaments, il commence à résister, ça devient problème pour son entourage. Fonds mondial qui prenait en charge, qui donnait la ration alimentaire à ce malade résistant au traitement, a coupé son assistance. Maintenant, c'est le PNUD qui doit prendre la relève, qui est en train de chercher la personne qui doit continuer avec cette activité. Donc, PNUD n'aura pas le principal récipiendaire d'ici décembre. Les malades n'appartiennent pas au Fonds mondial. Les malades appartiennent à la province. C'est pour ça que nous sommes venus rencontrer l'autorité pour lui dire, lui présenter cette situation, en attendant que les activités du Fonds mondial reprennent. Qu'est-ce que la province pense faire? Nous a demandé de revenir le jeudi matin pour commencer à réfléchir ensemble et trouver des pistes et des solutions.
Direction la province du Kwilu. La grève des enseignants du secteur public de la ville de Bandundu, amorcée depuis la rentrée scolaire, s'est poursuit. Ils réclament au gouvernement central notamment l'amélioration de leurs conditions salariales. Cette situation inquiète au plus haut point certains parents d'élèves qui pensent que le calendrier scolaire ne sera pas achevé à cause du retard que cause la dite grève. Irène Boma.
Sarah Mbangu est élève dans l'un des lycées de la ville de Bandundu. Elle s'est rendue ce mardi à son école et a été renvoyée à la maison dans l'avant-midi sans étudier.
J'étais partie à l'école le matin, je viens de revenir. Les sœurs nous ont dit de rentrer parce que les enseignants sont en grève. Il n'y a pas d'enseignants.
Cette grève générale et illimitée des enseignants du secteur public commence à peser sur les morales de certains parents de cette ville. Ils se disent inquiets et craignent pour l'éducation de leurs enfants. Voilà pourquoi ces parents en appellent à la responsabilité du gouvernement congolais afin que leurs enfants puissent retourner à l'école.
Bon, moi, étant que parent, ça me dérange. Nos enfants rentrent à la maison et ça nous fait mal.
Nous sommes inquiets pour cette grève qui dure. Les enfants seront en retard et ils ne seront pas terminés la matière qui a été prévue pour le calendrier scolaire de cette année. Que le gouvernement fasse quelque chose et vite afin que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école.
Les enfants ont fait 2 mois à la maison pour les vacances. Maintenant là, les enfants vont encore continuer encore 1 mois, ça fait 3 mois. Maintenant, que faire si l'État peut aussi nous trouver la solution pour que les enfants ne restent plus à la maison?
Plus de 3 semaines depuis la rentrée scolaire 2024-2025, Presque toutes les écoles publiques de la ville de Bandundu sont restées fermées. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Même situation dans la province de la Tchopo. Plusieurs écoles payées par le gouvernement à travers la Caritas aux alentours de Bafouassendé n'ont pas encore repris les cours 3 semaines après la rentrée scolaire. En cause, la persistance de la grève des enseignants en dépit de sa levée par les syndicats qu'il avait décrété au niveau national. Mais qu'est-ce qui explique cette contradiction entre le niveau national provincial et l'intérieur de la province? Jacques Moukonkolé.
À l'école primaire Bafoua Bada, située à 179 km de Kisangani par exemple, le directeur d'école, Justin Ninia, dit n'avoir inscrit jusque-là que moins de 10 élèves. Les parents d'élèves hésitent encore à cause de la grève des enseignants.
On ne peut pas reprendre ça pour voir qu'on ait une note provenant de la province. Mais moi je viens de Kisangani tout de suite et je vis de moi-même, de mes propres yeux. Personne ne m'a dit, mais je vis proprement que les élèves de l'école de l'État n'étudient pas.
Outre la grève, un bâtiment scolaire s'est écroulé et nécessite la reconstruction, tout en déclarant être prêt à entreprendre des travaux pour sa reconstruction. Le comité des parents entend sensibiliser les parents afin de faire inscrire leurs enfants à l'école. Le président du comité des parents, Jules Makassi, explique.
Comme il y avait toujours grève, c'est pour cela que les parents prennent comme les vacances continuent. Or qu'il y a rentrée scolaire, comme la grève a pris fin, nous allons inscrire nos enfants. Nous allons faire tout pour construire notre bâtiment et nous demandons aussi l'État de nous aider.
Beaucoup d'autres écoles de cette zone se trouve dans la même situation, déclare le directeur de cet établissement. Néanmoins, il compte entrer en contact avec ses collègues de Kisangani pour être fixé sur la levée ou non de la grève des enseignants. De retour de la RN4, Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au Sud Kivu également, les élèves des écoles publiques n'ont toujours pas repris le chemin de l'école à cause de la grève des enseignants. Entre-temps, les parents sont inquiets de cette situation, tandis que les autorités de l'EPST promettent d'y trouver une solution. Rachel Kiesé.
3 semaines après la reprise de cours, au Sud Kivu, les enseignants n'ont des discours autres que celui de la grève. Les parents d'élèves des écoles publiques demeurent inquiets face à cette situation. Témoignage d'un parent.
Ça nous dérange sérieusement parce que les enfants sont toujours à la maison. On les prépare le matin, ils vont à l'école. Quelques minutes après, ils sont rentrés à la maison. Pour dire quoi? Les enseignants ne sont pas là. Et cette situation nous met mal à l'aise et nous ne savons pas quand ça prendra fin. Si le gouvernement ne prend pas une disposition le plus tôt possible.
Sur la paye complémentaire que réclament les enseignants, les 50 000 francs déjà reçus restent insignifiants pour les enseignants. Jacques Chirimouami, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants au Sud Kivu.
Les enseignants du Sud Kivu continuent à en dire sur leur grève. Les 50 000 francs augmentés par le gouvernement congolais n'étaient pas l'attente des enseignants. Ils pensent que quelqu'un qui a demandé 500 dollars lui donner 50 000 ou 16 dollars, c'est une moquerie. Ils sollicitent le gouvernement de revoir cette augmentation à la hausse.
Cependant, la direction provinciale de l'EPST Sud Kivu 1 affirme que les discussions sont en cours pour décanter la situation. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Actualité internationale. En dehors de nos frontières, parlons de cette triste nouvelle pour le Sénégal. Amadou Matar Mbo est décédé ce mardi matin à Dakar, la capitale, à l'âge de 103 ans. Ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et directeur général de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, de 1974 à 1987. Il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du Sénégal et du monde entier. Amadou Matar Mbo s'est illustré par son engagement inébranlable en faveur de la paix et de l'éducation.
L'invité.
Depuis quelques semaines, une résurgence des violences armées est observée en Ituri avec des attaques ciblant des camps des déplacés. Quelle analyse faire de la dynamique des conflits dans cette province et quelles solutions pouvant atténuer les tensions et favoriser une paix durable? Pour en parler, nous recevons Thomas Ougembero, directeur général du Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement en Ituri. Il s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Ougembero Thomas, bonjour.
Bonjour.
Comment votre centre analyse-t-il la dynamique des conflits en Ituri et quelles sont les principales tendances que vous observez actuellement?
Le centre a mené des recherches sur les conflits ituriens et nous avons trouvé que ces conflits est un conflit qui se répète, un conflit séculier, et chaque fois avec une gravité. Les tendances actuelles de ces conflits, nous avons constaté qu'avec plusieurs rencontres des communautés autour de ces conflits, ça piétine parce que quelquefois il y a calme, quelquefois il y a résurgence, tel que pour le moment il y a résurgence de ces conflits au territoire de Djougou, alors qu'il y avait accalmé d'un certain moment donné là de plusieurs mois. Je pensais que ça allait vers la fin. Ces conflits doivent prendre fin avec la détermination de chacun dans la prise de position des communautés en conflit et aussi l'implication du gouvernement tant provincial que national pour mettre fin à ces conflits de l'Ituri.
Vous menez des recherches multidisciplinaires. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette approche permet d'appréhender de manière plus complète les dynamiques complexes des conflits en Ituri?
Ce n'est pas de la magie qu'on fait au Centre de recherche multidisciplinaire pour le développement. Ce sont les mêmes genres de faire qui sont faits à l'extérieur. Je prends l'exemple de l'UNADI qui regroupe l'ensemble des communautés de l'Ituri. Pour votre information, l'Ituri regroupe toutes les quatre souches linguistiques qu'on retrouve en RDC. Nous avons les Bantous, nous avons les Pygmées, nous avons les Nilotiques, nous avons les Soudanais. Au sein de l'UNADI, tous ces groupes sont réunis et parlent le même langage pour que la guerre prenne fin à territoire de Djougou. Que nous puissions vivre comme nous avons vécu par le passé. La guerre fait la honte, la guerre régresse, la guerre n'avance à rien. Donc l'approche du centre de recherche multidisciplinaire, c'est celle qui a trouvé que la meilleure des solutions, c'est de mettre fin à cette guerre qui ne se justifie même pas, qui ne fait que retarder le développement de l'Ituri, du territoire de Djougou en particulier.
Dans vos recherches, quels sont les principaux facteurs externes ou internationaux qui influencent les conflits en Ituri et comment interagissent-ils avec les dynamiques locales?
Les recherches se convergent vers le même résultat parce que en dehors des problèmes endogènes, il y a les problèmes aussi qui viennent s'ajouter, se gripper à ces causes-là. Normalement, nous avons trouvé que le point commun, c'est les problèmes de matières premières qui attirent notre malheur. L'or de l'Ituri attire la convoitise des gens de l'extérieur qui viennent soi-disant pour mettre fin soit à cette guerre ou bien qui attisent par des mains noires cette guerre mais qui arment les belligérants avec des armes et des munitions pour que cette guerre puisse continuer. Donc, il faut que la population prenne conscience que ce sont des gens qui ne leur apportent pas le bonheur. Quelqu'un qui vous amène les armes, des munitions, il ne veut pas de votre paix, il veut plutôt votre destruction. Nous avons trouvé que parmi les facteurs extérieurs, ce sont les gens qui nous amènent des guerres, des armes, parce qu'ils ont besoin de minerais pendant que vous vous battez et ils sont en train d'exploiter. D'ailleurs, avec la nouvelle technique ici, avec des pots clés là-bas, ils ont plus d'or que de 99 à 2003. Et on exploitait encore ça pots clés, mais aujourd'hui, avec le pots clés, le rendement est plus élevé. Et ça ne profite même pas aux Congolais, mais ça profite à ceux-là qui nous amènent des armes.
Quelles recommandations pratiques votre centre propose-t-il pour atténuer les tensions et favoriser une durable en Ituri en se basant sur les résultats de vos recherches?
Nous sommes condamnés géographiquement et sociologiquement de vivre comme par le passé. Donc, par exemple, un alour de Magui est condamné à vivre avec le Lendu qui est son voisin, avec le Lugbara qui est son voisin, et un Moulin est condamné à vivre avec le Hema dans le même territoire, et le voisin à Irum, le voisin à Mambasa, et le voisin à d'autres territoires. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble tous. Et pour vivre en paix, il faut promouvoir cette éducation, l'alphabétisation, pour que les gens de l'extérieur ne viennent pas maintenant vous manipuler, à vous donner des armes pour que vous puissiez vous entretuer, détruire les infrastructures, pour que vous puissiez régresser et déplacer d'autres personnes qui ne rentreront peut-être pas dans leur milieu, qui n'étudient pas. Et on voit le taux d'analphabétisme, le taux d'enfants de la rue qui a augmenté ici. Il n'a pas moyen qu'ils puissent étudier. Et les conditions de vie des personnes dans des camps aussi ne sont pas bonnes. Il faut que les gens puissent rentrer dans leur propre conscience pour ne pas écouter les gens de l'extérieur, plutôt aller vivre comme par le passé.
Ougéné Béro, Thomas, merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.